voilà. Je descends là, Fandena, Omnisport, tu m'amènes où? Taxi Brousse en panne, viens faire un tour dans les...
Hey yo, c'est Epco 31 et tu es branché sur For Real, le podcast avec Antoine Justin.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de For Real, le podcast, le meilleur podcast camerounais sur les musiques urbaines, le podcast des professionnels de la musique, dans lequel je reçois à chaque épisode un invité exceptionnel. Aujourd'hui, je suis avec, j'ai envie de l'appeler un dos argenté. Le dos argenté du rap camerounais, c'est l'un des plus anciens rappeurs camerounais. Bonjour, Crotal.
Bonjour.
Comment tu vas?
Mais écoute, je vais bien.
Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation dans For Real, le podcast. Mm-hmm. Je suis très honoré. C'est la première fois que je vous reçois. Ou c'est une première de recevoir un très ancien. Mmh. Un très ancien.
D'accord.
Alors, donc, j'aimerais qu'on pose un peu les bases et qu'on revienne au fondement, même à tes débuts. Comment est-ce que Crotal commence à rapper?
Mais c'est tout un process. Moi, je. Dans le prélude, j'ai écouté comment tu orientais le podcast. Déjà, j'ai dit aux gens, il faut arrêter les bêtises. Le rap ne commence pas au Cameroun en 90. Oui. J'ai horreur des raccourcis, c'est des trucs que je ne supporte pas. Surtout qu'on passe notre temps à raconter l'histoire telle qu'elle est, sans la tirer à notre avantage, que les gens au moins aient la décence de respecter ça. Parce que personne ne va réinventer cette histoire, en tout cas tant que nous vivons.
Oui.
Le Cameroun découvre la culture hip-hop au même moment qu'en France, c'est-à-dire en 1982. Et ça ne nous concerne pas si les gens n'étaient pas nés à cette période. Voilà. Ce n'est pas un débat. On ne demande pas aux gens si c'est vrai. Non, on dit ce qui était. Au même moment que la France découvre la culture hip-hop, le Cameroun la découvre. Et toute la terre entière vibre autour du phénomène hip-hop. C'est la terre entière qui est danse, breakdance, smurf, pop rock, pop lock, tous ces trucs-là. Donc nous tous, en fait, nous sommes des produits de la danse hip-hop à la base. Nous, en tout cas.
Oui. Crotal a dansé.
D'abord. Gamma.
Oui.
Et puis en 1984, celui qu'on appelle, entre guillemets, le pionnier du rap ou du hip-hop en France, en la personne de Sidney et son DJ David Guetta, sont venus ici, cinéma Le Capitole et Abia, faire des shows. Ils ont aussi fait à Douala. Et je suis désolé, Sidney est venu avec ses danseurs. Quand il était à Yaoundé, il était face à ce qu'on appelait les Yaoundé City Breakers. Les Mirage 444, tous ces gars sont vivants. Donc, je ne sais pas où les gens se situent, mais c'est ça l'histoire. Après, beaucoup de gars qui dansaient se sont mis à rapper. Parce que, je veux dire, à la base, c'est de l'expression. C'est de l'expression artistique.
Ouais.
Il y a des gens qui sont satisfaits de la danse. Il y a des gens qui trouveront que ce n'est pas suffisamment pour ce qu'ils ont à exprimer.
Ouais.
Donc, beaucoup ont basculé dans le rap.
Ceux qui avaient beaucoup plus à exprimer.
Voilà. Non, pas. Il n'y a pas de beaucoup plus.
Ouais.
C'est de l'artistique. Il y a des gars qui expriment toutes leurs émotions en dansant. Il y a des gens qui vont te dire, pour moi, c'est pas suffisant. Je suis graffeur.
Mm-hmm.
D'autres vont te dire qu'au-delà du graphe et la peinture, faut que je dise. C'est tout. Rhythm and power.
Ouais.
Rap. Et du coup, on a beaucoup d'aînés. Je vais penser à Pierre Merlin, Loïc Ogé, qui étaient des super danseurs à la base et qui, eux, moi par exemple, m'ont pris sous leur aile dès que j'ai eu 12 ans. Pierre Merlin et Loïc Ogé. Ensuite, paix à leurs âmes. Le prophète Joby, qui est décédé il y a à peine 2 mois. Qui m'a appris à écrire mes premières bars. MC LMI, qui est décédé, lui, il y a plus de 1 an et demi.
Oui.
Et je peux en citer plein comme ça. C'est ces gars qui ont posé les bases. Je dis bien, et l'histoire qui me concerne, c'est celle de Yaoundé.
D'accord.
Je ne suis pas outillé pour parler de l'histoire de Douala.
D'accord.
Voilà. Donc, je sais quelques certaines bribes sur Douala, mais bon, je vais parler du feu Jean-Jacques Minelli, je vais parler de Ponji le danseur, je vais parler de plein de gars, mais il faut savoir qu'on a une histoire. Donc, on commence, moi je commence réellement à écrire mes premiers textes de rap en 1988.
D'accord.
Après, il y a le boom Côte d'Ivoire, le mouvement Agnagna, qui arrive ici, porté par M. Constieka. Et il fait un Cameroun-Côte d'Ivoire au cinéma Le Capitole. Et nous avons la chance d'être dans l'équipe de ceux qui affrontent la Côte d'Ivoire. On est tout petit. Voilà, on est en 1990.
Ouais.
Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà déjà comment j'arrive au rap.
Ouais.
Et à cette époque, des plus jeunes, tu as des groupes comme Démoniaque aussi, tu as des groupes comme État d'urgence, tu as plusieurs groupes qui déjà se produisent. Tu as un gars comme MC Olangé, dont les titres passent déjà en boîte de nuit. Il avait fait un titre, bon, des titres, un titre.
Ouais.
Qui s'appelait le Sidatu. Il y avait eux c'était pas vraiment des rappeurs, c'était des gars à la base qui venaient des Mirage 444, puis qui sont devenus de, comment on les appelait encore, Star System. Se sont mis à interpréter les chorégraphies de Michael Jackson et de fil en aiguille, ils sont arrivés en studio, ils ont fait un album chanté, le clip tourné à la CTV.
Ouais.
Voilà, donc. Mais voilà à peu près des bribes. Maintenant, pendant cette époque, il y a quelqu'un que je vais remercier toujours, M. René Aïna, qui aujourd'hui tient le festival ici. C'est lui qui nous donnait la sono avec laquelle nous faisions ce qu'on appelait les Zoulou parties au collège Charles à Tangala. 1989-90, parce qu'après je suis parti en France.
Ouais.
91, c'est lui qui nous donnait la sono. Tous ces gens vivent.
D'accord.
Ils sont là. Voilà le départ pour moi.
Donc, 88.
Mes premières barres, 88.
Oui. OK. À ce moment-là, comment est-ce que au Cameroun, on regarde le rappeur ou celui qui...
On n'en a rien. Vous savez, vous avez le Cameroun, c'est quoi le Cameroun? À ce moment, au Cameroun, comment on regarde? Pour avoir ce type de prétention, il faut être en soi un exemple.
Ouais.
Aujourd'hui, je peux parler comme je parle parce que j'ai quasiment 50 ans, j'en ai rien à foutre. Il faut arrêter avec ça. Les mêmes types qui ont la prétention de donner des valeurs aux choses, ce sont les pires des racailles et les pires des bandits qui puissent exister. Les gens qui ont toujours la prétention de juger, je ne le supporte pas. Qu'est-ce que tu m'appelles au Cameroun? Comment percevoir un rappeur? Le Cameroun est outillé à quel niveau pour donner un échelon de valeur à quelque chose d'artistique? Outillé à quel niveau? La dernière des choses qu'il met en avant, c'est l'art et la culture. Alors, à quel niveau il peut prétendre donner un échelon de valeur à ce qui concerne l'art et la culture? Quoi? Vous voulez que je dise quoi? Que le rap était pris pour un phénomène de mode? Oui. Sauf que nous sommes en 2024. Est-ce encore un phénomène de mode? Je ne pense pas. 82, quand ça bousculait toute la terre, ah, ça va finir d'ici un an. On est en 2024. Les questions ne sont plus à ce stade-là. Maintenant, dans le contexte, oui, c'est un phénomène de mode. Sauf que nous, petits, on faisait déjà des showcases dans des boîtes comme le Gorille, le Pacha, le Megamix. On était payé 600 000 la soirée en 1989.
600
000. Oui, je dis ce qu'il y a. Maintenant, après, oui, je suis allé en France pour les études. Ouais. Là-bas, j'ai continué.
Oui.
J'ai continué du côté de Lille. J'ai fait partie des expériences qu'on a appelées les bus rock. C'était des studios qu'on aménageait dans des bus qui faisaient le tour des quartiers difficiles. Le groupe que je fais là-bas, c'est ARM, avec un rappeur d'ailleurs qui connaîtra une certaine célébrité qu'on appelle Axiom.
Ouais.
Hicham, c'est mon frère Hicham. On est tous de Moulin, Belfort, à Lille. Voilà, on a un groupe, on fait la première partie de Ice-T à l'aéronef de Lille, on est quoi, en 1992. On fait la première partie du groupe IAM quand ils font la tournée des maisons de quartier en France. Donc, après, je reviens ici avec la loi Passepoint en 93 et je ne suis jamais reparti.
La loi qui veut que
chacun retourne faire les papiers dans son pays d'origine.
Ouais. C'est ça le truc.
Et quand je suis arrivé, je ne suis pas reparti. C'est tout. Mais je n'ai jamais décollé de l'environnement hip-hop ou du hip-hop.
Ok. S'il faut comparer à peu près à travers ce que tout le monde peut écouter, je ne parle pas seulement de ce que j'ai remarqué. Les premiers projets rap, ou des premières années, ou de la première vingtaine d'années, étaient revendicateurs, plus revendicateurs que, en tout
c'est
cas,
quoi, ce qu'on peut... C'est quoi le rap?
Le rap, c'est.
C'est quoi le rap?
C'est quoi le rap?
Le rap est une musique à la base créée pour revendiquer.
Exactement.
C'est le haut-parleur de. Le rap, c'est le haut-parleur de sans voix. Tout simplement. Le rap, c'est pas juste une question de technique, de forme, de jolis habits, de flashy voulez. I don't know, mainstream.
Ouais.
Quand tu dis tu rap, on s'attend à certains codes, à certaines choses. Tout simplement. Est-ce que nous sommes des rappeurs? Oui, nous sommes des rappeurs. Pourquoi? Et on arrêtera le jour où on n'aura plus rien à dire. Au moins, quelqu'un qui fait un album où il dit rien, ouais, ça ne m'intéresse pas. Absolument pas. Qu'il ait la plus belle des techniques, rien à se dire. Tu rap, il y a un minimum qu'on attend de toi. Un minimum.
Et ce minimum, c'est le message.
Ben oui, il faut que tu dises quelque chose, que tu véhicules quelque chose.
Oui.
Sinon, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. Aujourd'hui, la société est... La société est complètement assise. C'est-à-dire, plus tu es vide, plus on t'érige. C'est à ça que nous sommes réduits. Donc, tant mieux.
Pour ceux à qui ça profite.
Oui, si ça satisfait les gens, tant mieux pour eux. Mais quand tu dis rap, je suis désolé, le rap véhicule un message. Le rap fait passer certaines choses. Et ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça.
Est-ce que si on a perdu ça, ce n'est pas peut-être parce que on a fait une transition entre deux époques différentes.
Il n'y a pas d'époque différente, vous n'inventez pas le rap. Vous n'êtes rien dans la création du rap. Quand on dit rien, vous n'êtes rien du tout.
Même pas un petit grand.
Cameroun, vous êtes qui dans la création du rap? Vous n'êtes rien du tout. Vous suivez un courant.
Oui.
Quoi? Mais vous avez le chic de vouloir tout réinventer. Surtout quand ça vous dépasse. C'est-à-dire le Camerounais, par principe, quand un code le dépasse,
ouais,
il s'invente un et il essaye d'en faire un talon de référence. Et pour ça, il est prêt à tout briser. Or, c'est pas parce que tu le fais qu'au-delà de tes frontières, les gens font la même chose que toi. Il faut faire très attention. Après, le rap, en réalité, dans les industries de divertissement au monde, le hip-hop, en fait, est monté très haut en matière de vente. Du coup, on peut dire, il y a un slogan d'ailleurs, « Hip-hop is the new pop ».
Oui, le hip-hop, c'est la nouvelle culture populaire.
C'est la nouvelle pop.
Oui.
Du coup, c'est devenu une espèce de sauce là où Tu vois, j'ai vu une interview que j'adore de Mos Def, qui est un super lyriciste. Et on lui demande en live, comme il fait son comeback, ce qu'il pense de Drake. Et il est embarrassé parce que, bon, après, c'est un business, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Mais il comprend très bien pourquoi lui on pose la question.
Ouais.
Et il répond, il dit, c'est fou ce que j'aimerais écouter du Drake quand je fais une course au supermarché. C'est tellement... voilà. Et lui-même, il se met à rire. La fille qui lui fait l'interview se met à rire. Il dit, c'est pas mauvais, mais voilà, tu vois, c'est... Tu vois, voilà, quand je vais chez LV, tu vois, voilà. Ouais,
parce que
j'aimerais c'est... écouter ça dans les bars, tu vois, c'est... Ah, où est là? Tu comprends, voilà, voilà à quoi c'est ça?
Oui.
C'est des pop stars, c'est des. Voilà, c'est un truc là. Oui, c'est très lisse, c'est super bien travaillé. Est-ce que c'était ça au départ?
C'est très commercial.
Ça veut rien dire, tout est commercial.
Oui.
Dès que ça sort des baffes, si c'est diffusé, c'est déjà commercial. Ça, c'est des expressions vides de sens. Ah, moi, je suis un degré, c'est des conneries. Dès qu'on diffuse ton œuvre, elle n'est plus cachée.
Underground.
Elle est diffusée. Underground, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on n'entend pas. Mais oui, il fait du rap commercial, c'est à dire. Ça ne veut rien dire. Bref.
À Yaoundé, pour ceux qui cherchent un peu dans l'histoire, on ne sait pas vraiment quel est le premier studio qui a été conçu, ou bien le premier studio d'enregistrement
du rap.
Uniquement rap.
Uniquement dédié aux musiques urbaines, c'est notre studio, celui qu'on avait fait avec Luce.
Mapan Records.
Avant, même si c'était même pas Mapan Records, ça s'appelait Blue Moon Records. Blue Moon Records qui comprenait une unité qu'on appelait le Magic Studio. Et c'est le Magic Studio qui deviendra après Mapan Records.
D'accord. Et qui sont ceux qui fréquentaient ce studio à l'époque?
À l'époque, tout le monde.
Tout le monde, c'est-à-dire?
J'ai dit tout le monde. J'ai fait des musiques de 80% des groupes de hip-hop du Cameroun. J'ai dit tous les groupes du Cameroun. 80%. Allez, vous pensez. Il n'y a aucun qui parle. Pas ouais. Tant de Douala de partout pour venir faire des musiques parce qu'on avait le son. Ça veut dire que je te parle de X Malia quand ils étaient 7.
Oui, parce que ça, tout
le monde. Non, non, je parle de X Malia quand ils étaient 7.
Oui.
Voilà, moi, c'est là-bas que je suis.
C'est-à-dire, c'est une époque.
Je dis bien, ils sortent d'ici avec leur maquette,
ouais.
Qu'ils emmènent chez Ruben Binam, ils se retrouveront à 5, et puis ainsi de suite, ils se retrouveront à 3. Cette maquette-là vient d'ici.
D'accord.
Ça veut dire que quand je commence à énumérer les groupes, j'ai fait les prods pour au moins 260 groupes de rap et de R&B de tout. Entre 1997 et 2004 à peu près.
1997-2004.
Au moins. C'est pour ça que je ne me sens pas concerné quand quelqu'un me dit il a déjà fait quoi pour les gens. C'est la chose la plus bête, la plus pitoyable. Que les gens sachent une chose, on n'en a absolument rien à foutre. Parce que ces gars qu'on a aidés à l'époque, c'était à eux de prendre le relais.
Ah, ça, c'est ce que certains diraient en parlant de Crotal.
Oui, bien sûr, c'est des trucs que j'entends souvent, c'est marrant. Tu écoutes des gars, mais tu me connais, tu sais que j'ai fait quoi. Je préfère te dire que, bon, écoute, moi, j'ai aidé le grand frère du rappeur que tu aimes dans ton quartier.
Pour lui montrer à quel niveau de donc, génération.
Donc, le gars qui devait t'aider, c'est pas moi. C'est, ouais. Tu choisis là-bas, là. C'est le gars qui devait vous aider. Ce n'est pas que quand ça merde, on indexe. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Lui, il est grand, on a bloqué. Oui. Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller sur les festivals et autres? Nous, pas du tout. Nous, on a fait notre boulot, on a fait tous les festivals d'Afrique francophone en disant non, c'est pas nous les meilleurs. Les autres sont derrière et ils doivent avoir au moins un groupe venant du Cameroun chaque fois que vous faites une édition. Vous avez estimé que c'est rien du tout.
Maintenant que tu en parles, ça me fait penser à quelques bruits de couloir que j'ai souvent entendus qui disent que les aînés, ils ont mangé tellement que après ceux qui soutenaient le rap
on n'a rien mangé
vu
du tout.
Que vos aînés ils nous ont chop comme on dit au quartier, ils nous ont chop. Nous, tous ceux qui viennent derrière là, on n'est pas avec vous, on ne va plus financer le rap, vos festivals, c'est fini.
C'est archi faux. Ouais. C'était une bataille permanente avec les annonceurs.
Parce qu'avant, il y avait des annonceurs comme Gold Leaf, si mes souvenirs sont bons,
Gold Leaf, Coca-Cola. C'est des petits annonceurs.
Oui.
Si tu parles de Coca-Cola, tu es toujours en train de parler de moi. C'est moi qui ai fait Coca-Cola. Mais j'ai rien fait. Mais sache que je suis le producteur de Coca-Cola.
Ouais. Qui était une compétition, je sais pas.
Très bien. Qui passait sur la CRTV du Jamel.
Ouais.
Et ça devait avoir lieu chaque année. Quand la première édition est finie, les grands savants sont venus entrer là-dedans. Les gars Yonke et tous ces gars-là. Et c'est eux qui ont mis ça à terre.
Ouais.
Tout simplement. Et puis bon, après, ça n'a pas beaucoup dérangé les gens. Mais ça vous a quand même révélé. Séminaire, les Dibi, Sidney le chanteur.
Qui quelques années après a gagné le concours Music Star.
Voilà.
Oui.
Ce qui même était une irrégularité parce que le concours Music Star avait certaines conditions. Or, il avait caché qu'il avait déjà participé à un concours, il avait gagné. Mais bon, ça, c'est rien. Mais non. J'étais fait une boutade tout à l'heure en disant que s'ils sont concernés, ils font le métier. Mais on a quoi voir avec les orientations artistiques et le fait qu'un annonceur, par exemple, n'aime pas ta musique. Ça ne me regarde pas. Nous, pour nous imposer, on a choqué avec les annonceurs. Je dis toujours, quand MTN Cameroun organise Go Music, ils font venir Passy et toute son équipe là, du secteur A.
Ouais.
Sur Laisse parler les gens, tous les groupes camerounais qui ont fait la première partie à cet événement touchait chaque mot 5000 francs CFA.
5000 francs CFA.
Voilà, maintenant, allez chercher à savoir comment on est passé de 5000 à 4 millions de cachets. On a respecté les gens. Parce que nous, on a mené des combats que vous ne pouvez pas mener. Et c'était sans passer par des appuis politiques ou quoi que ce soit. C'était par nous-mêmes. Par la force du talent. Parce que c'est nous qui avons démontré à ces annonceurs que vous n'avez pas besoin de faire venir des artistes de l'étranger à qui vous payez des centaines de millions. Alors que, en éclatant cet argent pour les groupes locaux, non seulement vous aurez plus de public que eux là, et ben c'est un très très long combat.
Sachant que c'est un problème qui est encore présent.
Non, non, vous l'avez ramené ce problème. Nous on avait fini avec ça. C'est vous qui avez ramené ça. Là, je ne perds pas la route. Hein.
Ouais.
Vous êtes arrivé dans un environnement où vous avez trouvé les cachets élevés. Vous avez dit que c'est la norme. Vous-même, quand je dis vous, excusez-moi, je parle à la nouvelle génération là.
Ouais.
Vous-même, vous avez emmené ce qu'on appelle le NOC, le Shiba. Tout ça, c'est vous. Entre vous là, vous êtes bien bouffé et vous vous êtes dévalorisé vous-même. Moi, sur une campagne publicitaire par visuel, je te donne un exemple.
Oui.
Par visuel, c'était 4,5 millions. Ça veut dire que si on retient 8 photos, ça fait 4,5 millions fois 8. Aujourd'hui, vous me demandez de jubiler quand quelqu'un a son visuel dans toute l'Afrique francophone pour 1 million de francs CFA. Vous voulez que ce soit considéré comme une victoire? Mais c'est de la folie. Le but, c'est quoi? C'est qu'on voit vos têtes en face de chaque lycée dans toute l'Afrique pour 1 million de francs CFA par l'année. Oui, oui, gars, tu sais, nous, on fait dans le placement de produits. Quel placement de produits? Vous croyez que vous êtes les premiers à le faire? Non, mais c'est ça. On réinvente tout. Ouais, regarde, moi, il y a un bon client de me voir. Ouais, donc, derrière, quand tu pars faire ta dépression nerveuse au quartier, ne ouais. saoule pas les gens. Assume. C'est un choix. C'est un choix que tu as fait. Assume. Quand le gars qui te découvre, te met en studio, te porte, t'emmène au plus haut, et que tu as rendez-vous avec lui chez Universal Music pour un éventuel deal.
Oui.
Que les gars de Universal t'appellent par derrière et que tu y vas, tu pars signer pour 1,5 million de francs CFA. 1,5 million. Vous savez combien touchent les artistes qui sont signés à Davos? J'ai des artistes ici qui sont signés à 25 millions de francs CFA, de ma poche. Oui. 1,5 million.
25 millions.
Après avoir... Non, non. On appelle la signature. Okay. En contrat, j'ai des artistes signés à 25 millions.
C'est-à-dire que...
Aucune major africaine
oui.
dans la zone francophone ne donne ça à aucun artiste. Allez dire que j'ai dit. Vous vivez dans quelle bulle? Les bruits que tu entends là, c'est les histoires de 1,5 million, 2 millions, tout le vent là, derrière. Pourquoi vous êtes épatés quand les artistes d'aiment? Parce qu'ils réalisent.
Ouais.
Sauf que lui, quand il part porter les 1 million ou les 2 millions là, il est sûr qu'il a mis un solo à son manager, machin. Derrière, quand les problèmes commencent, parce que c'est des contrats, et tu as rempli ton contrat. Si on te fait signer une carotte du genre 5 albums en 5 ans, Tara, tu vas faire les 5 albums là en 5 ans. Ne te dérange pas, il n'y a pas d'amitié dedans. Ce n'est pas les affaires sociales.
Et le plus souvent, ça finit en litige.
Qui a la capacité de faire un litige contre eux? Qui? Quel litige? Qui? Quelqu'un qui ne sait même pas comment on fait une carte nationale d'identité, tu sais ce que c'est qu'un litige? Payer un avocat? Ou des avocats pour affronter des multinationales dont les sièges sont basés en Occident.
Et qui ont des batteries d'avocats.
Vous êtes dans un truc là, c'est pas Hollywood, la télé vous trompe beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, c'est pas un jeu. Mais c'est la triste réalité. C'est pour ça que d'entrée de jeu, les anciens ne se sentent pas concernés. Non. Tu as décidé de prendre quelque chose, Tara, prends, porte pas avec. Oh, non, fais, oh, ben, de moins de toutes petites vidéos, oh, une marque apparaît derrière. Va écouter ouais. les deals des marques là, vous allez tomber à plat ventre. Allez écouter les sommes. Allez écouter. Tu entends des choses inouïes. Non, j'ai un deal là avec machin. Bon, c'est sur 1 an. Le deal n'est pas compliqué, on me donne tant par mois, mais il faut qu'à chaque apparition, chaque week quand même,
oui, yeah.
va écouter les chiffres. Pourquoi ils ne prononcent jamais les chiffres? Placement de produits, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tu as l'impression que des gars deviennent artistes, musiciens pour accéder au placement de produits. Et non le contraire. C'est l'aura de l'artiste et ce qu'il a développé qui emmène la marque vers lui. C'est pas le contraire. Donc, regarde, le produit, c'est, non, ça, c'est bon. Avec ça, là, on a huile d'amarant, on a top, on a maintenant. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est beaucoup de choses.
Ouais.
Comme la logique du single, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Le single fait partie de la stratégie de sortie d'un album. Le single n'est pas une fin. Le single, c'est rien du tout. On a vu des exemples. Ouais, oh, oh, c'est mon single. Oui, super single, super clip.
Ouais.
On pousse au maximum. Derrière, quand tu le programmes, mais tu es un artiste qui a une seule chanson.
Donc, du coup, single, maxi single, tout ça là.
Mm-mm. Single.
Single.
Ça vient, ça fait partie de la stratégie de sortie d'un album.
Ok, c'est-à-dire qu'un single n'est pas orphelin.
Ah non, 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 absolument pas.
Ok.
Absolument pas. Il faut savoir qu'à un certain niveau, quand un single sort, comme vous voyez là, tous les singles qui sont prévus de sortir sont déjà alignés avec les vidéos, les manches, tout est aligné comme ça. C'est ça qui permet d'exister sur 2 ans, 3 ans. Du coup, quand le gars arrive à l'album, tu as l'impression que c'est quelque chose de neuf, alors que c'est quelque chose qui est là. C'est le contenu là que tu ne fais que checker depuis.
Oui.
Mais ici, on utilise toutes ces méthodes et ces stratégies. Pourquoi 3 chansons par an? Mes amis, ouais. Tu noques, tu chibas tes collègues, pourquoi pour 3 chansons par an? Fais la moyenne de tout ce que vous considérez actuellement comme musical. C'est 3 chansons par an. Il y a un titre tous les 4 mois.
Ça, c'est. Est-ce que ça, c'est un titre terrible?
C'est vérifiable.
Ouais.
Choisis n'importe lequel.
Ok.
Tourne en moyenne à 3 chansons. Pour celui qui est prolifique.
Prolifique, oui.
C'est pas un tir. Moi, je suis producteur. Je dis ça sans émotion. C'est la triste réalité. C'est ça que vous avez envie.
Bon, si on devrait. Bon. S'il y aurait une moyenne de singles à sortir en une année.
Non, chaque maison est libre de faire comme elle veut, comme elle entend.
Oui. Mais.
Ça engage ce que ça engage.
Mais de ton avis de producteur, si tu devrais. Si
pour
tu
qu'on devrais... fasse parler de toi, il faut avoir la politique de tes moyens, ta maison de production. Ça veut dire que si vous êtes dans une histoire de 3 singles par an, je suis désolé, un vrai label doit pouvoir débarquer avec quoi? Un label qui a 10 artistes en signature, si votre jouet c'est 3, ça lui fait 30 chansons par an. Ça veut dire que quand on fait un top 10, vous gérez ça comment? Il vous asphyxie parce que le contenu là.
Ouais.
Le pouvoir c'est le contenu.
De plus en plus.
Non, le pouvoir c'est le contenu. Je suis désolé.
Okay.
Tu ne parles pas fort en tant que producteur à un homme qui a produit 5000 chansons alors que tu n'as produit que 20 chansons d'artistes boiteux parmi lesquels il y a peut-être 4 singles qui ont fait fort. Oui, c'est ça que j'appelle au Cameroun les raisonnements à l'envers. Vous êtes perdu. Un homme qui a produit 5000 chansons, tu ne lui parles pas fort. En termes de contenu, tu n'existes pas. Tu es où? Oui, tu as le titre de tube de l'heure. Oui. Sauf que quand on parle maintenant de producteur,
oui.
Ça se mesure en catalogue. Ce n'est plus une histoire. Oui, oui, Dara, tu produis depuis combien d'années? Je produis depuis tant d'années. Tu as combien de titres là? Regarde, je suis à peu près à 600 titres. C'est doucement. Toi, tu es où? Tu danses ça là, tu te situes.
Ok. Depuis que Crotal a entamé une carrière de producteur.
Je suis producteur depuis le début. J'ai entamé une carrière de producteur.
Ouais. Tu penses que tu te situes à quel chiffre?
1100 à peu près.
1100 chansons produites.
Oui.
D'accord.
Que j'ai créé, composé.
Ouais.
Déposé.
Ok.
À peu près 1100 titres. D'accord. En tant qu'artiste même, j'ai déposé à peu près 140 chansons, 150 en tant que Crotal. Faut pas confondre, hein, les titres qu'on dépose, les titres diffusés. Faut pas confondre. Confondez pas les choses.
D'accord. Crotal, au cours de tes... Depuis que tu as commencé ta carrière, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai envie de dire que c'est autant de... Chaque année, c'est autant de vie que possible, autant d'expériences inédites, loufoques, peut-être même tragiques ou tristes. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui, toi, t'a marqué? Une anecdote, genre, quand tu t'assieds comme ça, tu dis « Waouh, C'était en 2000 et vraiment jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas oublier ce jour.
Il y en a trop. Ouais. Il y en a trop. Le seul truc dont nous on est fiers, c'est qu'à un moment on s'est levé grâce à, et j'ai toujours le big up, grâce à Louis-Marie Touré, qui est mon cousin, mon frère, mon grand frère, qui a mis ses économies dans Blue Moon Records.
Ouais.
Ça. Et je vois encore le regard des gens qui nous prenaient pour des fous. Vous mettez autant d'argent dans un tube pour rentabiliser ça comment? Et on avait dit à tout le monde que non, dans 5 ans, on aurait l'impact de ce que nous sommes en train de faire. Et effectivement, dans 5 ans, en 5 ans, on a asphyxié tout le monde. Parce que c'est moi qui fais l'album de Négricine, qui fais l'album de Racine, qui fais, c'est moi. Accent grave, bien sûr, et bien d'autres.
Ouais.
Ouais, c'est, nous, on commence à enregistrer Caméra Connexion en 98. Finalement, on ne sortira qu'une partie de Caméra Connexion en 2004.
Une partie. Alors, tout ce que...
Caméra Connexion a enregistré à l'époque 28 artistes ou 29 en 3 jours.
Waouh. En 3 jours.
Ouais, ouais.
J'imagine que c'était sans dormir, parce que en 3 jours,
ce que nous, nuit blanche. On a eu à faire, c'est pas enregistrer, faire travailler les gars. Ouais. Et pour ça, j'ai dit que je ne sais pas qui n'a pas travaillé avec nous. À l'époque, le groupe de Valsero, de Serval, s'appelait Kérosène Crew. Je crois que la première fois qu'ils entrent en studio, c'est chez nous. C'est pour ça qu'il y a des débats dans lesquels on n'entre pas. La personne qui crée une polémique, tu as envie de lui demander qu'est-ce que tu sais. Tu sais quoi? Tu sais rien. Ouais. Tu sais juste ce qui te passe par-dessus. Tu imagines des choses, mais tu sais rien.
Moi, de ce que j'ai constaté, ou de ce que je déplore, c'est qu'une bonne partie de l'histoire du rap, au moins de ses débuts, ne soit pas disponible en ligne.
Pourquoi faire? Je répète encore, tous les propos que je sors, je les assume.
Ouais.
Pourquoi faire? L'histoire intéresse. Des gens qui pensent qu'ils réinventent l'histoire,
ou qui sont,
pas. En train, ou qui sont en train de l'inventer, ça intéresse. Ouais. Ça intéresse. Il faut avoir une culture de l'histoire. Le Camerounais, dans sa configuration actuelle, on lui a dit que l'histoire n'est pas importante. On a même créé des expressions bâtardes pour ça. Génération spontanée, de quoi on parle? Qu'est-ce qui est spontané? Tu n'es que l'émanation de quelque chose qui a été.
Ouais.
Les générations, de quoi on parle? Et ça entre dans le langage, ça entre dans l'inconscient collectif. Ça te donne des choses, mais extraordinaires. Il y a des petits qui sont venus me voir ici, ils me disent, oui, voilà, on sait que vous étiez là au début. Oui, bon, votre album Vert ou Jaune est sorti en 2003. Après, bon, il y a eu Stanley et nous. Aujourd'hui, vous dites quoi? C'est l'histoire du rap camerounais que tu parles comme ça. Donc, j'étais là en 2003. Après, il y a Stanley.
On a été parachuté en...
Après, j'ai dit, mon petit, tu sors, tu pars après. Marche beaucoup. Va apprendre. Va apprendre. Comme ça.
J'aimerais qu'on aborde un peu le sujet de Mapan Records, qui a été le premier label.
Selon moi.
Oui. De rap au Cameroun.
Non, c'est pas le premier label de rap au
Cameroun. Oui.
Je crois que Zomloa avait un an d'avance sur nous. Mais nous, matériel, studio, investissement lourd, nous sommes les premiers.
D'accord. Et chez Mapan, on pouvait retrouver Accent Grave, qui est Accent Grave avec qui tu as...
J'ai pris la peine d'expliquer tout ce qui se passait chez Mapan. Tu es sur Accent Grave.
Oui.
Je répète encore, à Mapan, on a fait négocier. On a fait Racine. On a fait 80% du hip-hop camerounais. Avant de venir sur les prods d'accent grave.
Ok. Comment ça se passait? Comment ça s'est passé l'association entre toi et Louis Tsongi? Comment est née l'idée?
Il n'y a pas de naissance d'idée. Louis, c'est un gars qui a toujours été un passionné de musique. Il a fait les stages de DJ, DMC aux côtés des DJ Cut Killer, DJ Abdel, tous ces gars. Et chaque année qu'il venait ici, il repartait avec les maquettes de OAN, originaire d'Afrique Noire, qui est un groupe de... qui est un groupe de Douala, voilà, le plus vieux groupe de Douala. Il repartait avec nos maquettes. Et à chaque fois, on lui disait la même chose en même, c'était que les gars sont forts, ils rappent super bien. Mais les sons, c'est pas ça.
C'est pas bien mixé.
Non, c'est pas bien mixé. Les sons sont pourris. Oui. Les sons ne sont pas adaptés à...
aux enceintes.
Non, pas aux enceintes. Les sons ne sont pas adaptés. C'est-à-dire les expandeurs qu'on utilise localement pour produire les musiques. Les sonorités sont en retard sur les expandeurs qui sont utilisés dans l'industrie.
C'est quoi les expandeurs?
Ah, ça va aller. Donc, les banques de sons qu'on utilise, les banques de piano, les banques de machin, on est sur de la très mauvaise qualité.
Ok. Ce qu'on pourra appeler les sons?
Non, je parle, je veux dire, quand je plaque Do sur le piano, là, c'est oui. Do, c'est pas un son.
Ok.
Est-ce qu'on se comprend?
D'accord.
La musique se joue. Maintenant, sampler, c'est prendre une unité déjà jouée. Pour qu'on se compare, les gens utilisent des mots à tort et à travers. Le sampling, c'est prendre une unité déjà jouée. Mm-hmm. Une boucle.
Oui.
Moi, je parle de musique. C'est pour ça que j'aime pas l'expression beat. C'est très réducteur.
Oui.
C'est de la musique. C'est de la musique qu'on écoute. Donc, on est en retard sur tout ce qu'on fait. Et c'est comme, c'est pour ça que quand Louis s'investit dans le studio, on a le même studio quasiment que le groupe IAM en France. On a le sampleur EMU, on a les banques de son. EMU, on a toutes les banques. On a les mêmes enceintes que Mobb Deep, les Tannoy Reveal.
Ouais.
On a, voilà, et on a du gros son, personne n'avait ça. Donc, c'était un mélange de jeu, de sampling, c'était vraiment le gros son, comme on dit, comme chez les Blancs. Et à partir de ce moment, beaucoup de choses ont changé.
Ouais.
Il y a, comment tu appelles, DJ... son nom va me revenir à Douala, qui a aussi fait venir du matériel. Les gens ont commencé à comprendre, tout simplement. Les gens ont commencé à comprendre. Et il y a Mapan, c'était en même temps un studio de location dont les gens venaient payer des sessions.
Oui.
Et bref, c'était toute une unité, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on avait pour ambition d'arriver à un gros studio en Afrique centrale. C'était ça, nos rêves.
Oui. Voilà. Et comme on dit souvent.
Après, chacun ses desiderata et ses objectifs. On a atteint un niveau où il y avait beaucoup de tiraillements entre nous. Nous étions trois propriétaires de Mapan.
Oui.
Louis était le general manager. Simon était le manager administratif. Et j'étais celui qui tenait toutes les infrastructures techniques. Mais quand même les gars que vous produisez en arrivent à oublier qu'au-delà d'être avec vous tous les jours, là, je fais partie de vos producteurs. Je suis producteur. Il y a beaucoup d'amalgames qui commencent à se créer. Jusqu'au moment où j'ai dit, ah, parce que lui, c'est reste mon frère, c'est le sang. Les gars, le talent, on ne va pas balader pour les appareils. Il y a beaucoup de grands compositeurs au Cameroun. On avait un objectif, un but, je crois que je vais continuer à aller poursuivre.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai commencé dès 2007 à investir beaucoup dans du matériel lourd jusqu'à aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, Mapan Records, c'est une histoire ancienne.
Non, non, moi je suis parti de Mapan depuis 2007.
Ouais.
D'abord, c'est 2007. Le maxi single, la BO de No Life, c'est le premier produit de Dabot en tant que label. Il y avait eu un maxi de 6 titres.
Ouais.
Que j'ai produit avec MTN Tambour et Planète Jeune. Dans tous les Planètes Jeunes d'Afrique, il y avait un single, la BO de No Life. Vous savez pas ça?
Un single en CD?
CD.
CD, ouais.
Dans tous les Planètes Jeunes d'Afrique.
D'Afrique. C'est un espoir terrible.
C'est l'effet que j'ai vendu, quoi. En gros, j'ai fait une prévente de 20 000 albums. Je calcule. Nous sommes en 2007.
Ouais.
Pour ça, je rigole quand vous me parlez des placements de produits. Je ris aux éclats. Tu factures à 2500. Parfois, le nombre d'abonnés de Planet. On te paye le tout à l'avance. Tu gagnes, la marque MTN gagne, la Nature gagne, la Baudet même gagne.
Donc, s'il faut dire en termes de chiffres.
2007, c'est l'année où je vais sur le FESPAM représenter le Cameroun. Ouais. La même année, je vais sur le Sphinx Festival,
en qui Belgique.
Est le plus vieux festival
en Belgique.
Créé par le roi de Belgique.
Ouais.
C'est 250 000 personnes. En termes de spectateurs, j'y suis avec Alpha Blondie, Baba Mal, voilà, en 2007. Et quand je reviens du Sphinx, septembre, octobre, le maxi single est annoncé. Il sort, nous sommes, tu fais 2500 fois à peu près 20 000 exemplaires. On est à 50 millions.
Je préfère ne pas faire de commentaires. Je préfère ne pas faire de commentaires.
On avance.
Oui. En 2003, tu sors l'album Vert ou Jaune.
Oui, oui, sur ma page.
Pourquoi le titre Vert ou Jaune?
Parce que je suis camerounais. Parce que j'ai toujours dit aux gens que ma priorité, c'est le Cameroun. Je ne sais pas. À la limite des autres pays, j'en ai rien à foutre. Je te dis bien tout ce que je dis, je l'assume.
Oui.
Ma priorité, c'est le Cameroun, après l'Afrique et peut-être le reste du monde. Voilà, moi, où je suis.
Ok. Avec des titres comme Jamais et Vert ou Jaune, comment c'est de sortir un album en 2003, comment est-ce qu'on en fait?
Pour sortir un album, déjà, on n'a pas de CD. On a des CD qui sont en fait des gravures qu'on nous fait presser à JPS, sauf qu'une gravure a une date de péremption. Ouais. Les gens ne savent pas. Les CD gravés moisissent. Ils moisissent. Le dessus, la moisie finit par moisir. Oui, ça s'abîme. Donc, on a eu ce problème quand on a sorti Accent Grave. Yaoundé est pour la planète parce qu'ils sortent avant moi, en 2001. Il y a encore les cassettes, mais on a pressé les cassettes et les CD. Tous ces CD ont moisi. Par conséquent, sur Vert ou Jaune, on sort des cassettes, mais on travaille avec une boîte en France qui s'appelle MPO. Et nous sommes les premiers à faire venir des vrais CD gros.
Qui ne moisissent pas.
Voilà. Donc, à l'époque, on fait venir 5000 exemplaires déjà dans un premier temps, et qui d'ailleurs seront entièrement vendus par la plateforme Culture Bois.
Qui existe toujours.
Je ne sais pas si Culture Bois existe toujours, mais c'était une super plateforme.
Ouais.
Qui avait des kiosques un peu partout. Et je vends tous les 5000 exemplaires du Cameroun par Culture Bois à 5000 francs CFA.
L'exemplaire unique.
Et on avait la FNAC de Nantes aussi qui vendait, on avait les réseaux normaux de vente de produits. Maintenant, au niveau de la diffusion média
et de la promotion, Comment ça se passe?
La promo, ce qui n'existe plus aujourd'hui, déjà. Qui suit encore les médias? Les gens avaient écouté la radio, la télé. Aujourd'hui, vous êtes sur Internet. Avant, la radio, c'était très important. Hein. La télé, c'était hyper important. Donc, du coup, les annonceurs, les diffuseurs prenaient les œuvres comme leur problème. Et c'est comme ça que ces chansons grimpaient. Vous croyez que tout le monde a Internet? Vous croyez que quand vous êtes à Kilibis, il y a Internet là-bas? Mais par contre, je vous promets que le poste national passe là-bas. Du coup, c'est comme ça que le rayonnement est arrivé. Et par ce rayonnement, ça a contaminé les pays à côté. Le fait de passer, par exemple, sur Africa numéro 1, sur le Hit Parade avec Robert Brazza et Manu Dibango, ça m'a mis numéro 1 du Hit Parade d'Africa numéro 1 pendant 8 mois. J'étais devant Passy qui avait fait « Hey, écoute, reviens dans ma vie. » J'étais devant eux pendant 8 mois. Quand je vais sur le festival Gabao à Libreville en 2006, qui est mon premier gros festival franco d'Afrique francophone, quand j'y vais, mes musiques servent d'habillage à la chaîne de télé nationale.
Les musiques de Crotal. Ouais. Pendant qu'il y a
c'est pour ça que je suis tête d'affiche du Gabao 2006.
Ouais.
Au même titre que Daraji, au même titre que Sanik.
Le parcours est long et impressionnant.
Non. Voilà, effectivement, on a fait beaucoup de choses.
C'est le moins que je puisse dire. Crotal, j'aimerais qu'on parle un peu du rap au féminin.
Ah, le rap au féminin.
Le rap au féminin. Ton rapport avec les rappeuses féminines. Déjà, peut-être du fait de mon âge ou du fait du manque de médiatisation du rap féminin. Le seul nom qui revient le plus souvent quand on dit rap féminin au Cameroun, on pense à Lady B.
Oui, Lady B est bien, mais il y a eu Slack, Trace la route, il y a eu Végance, qui est aujourd'hui une grande des diplomates. Il y a celle qui est encore active actuellement, c'est Vincent.
Ouais.
C'est la plus forte. Et quand je dis Slack,
oui.
Slack, c'est la grande sœur de Vincent. Toute leur famille là. Il n'y a que des femmes là-bas qui rappent et de très beaux rappeuses.
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'elles soient de moins en moins nombreuses
ou de moins en moins Vincent en France.
Visible.
Vincent est en France. Pourquoi est-elle calcule le Cameroun dans son schéma de développement? C'est tout ça qui vous perturbe. Les gens vivent leur vie. Les gens vivent leur vie. Vous offrez pas quelque chose de concret aux gens, ils s'en vont voir ailleurs. On n'encourage pas, mais c'est la vie. Les gens vivent leur vie. Vous n'êtes pas... quand Ganou part se prendre une mandale là-bas devant Joshua, pourquoi est-ce qu'il vous calcule? Joshua empoche 50 millions de dollars, il en empoche 20 millions d'argent propre. Pas d'argent de détournement, de données, ni quoi que ce soit, non. Ça veut dire que vous pourrez critiquer ça 10 ans sur Internet. Le gars, il a 13 milliards en poche. Tu as ça? Tu auras ça un jour. Vous êtes dans des bulles très fortes. Quand on est persuadé que sur le déploiement d'un individu, ce qu'il pense compte. C'est très fort. Vincent, la dernière fois que j'ai vu Vincent ici, elle était co-présentatrice des mots à Hip Hop Award.
C'est en quelle année?
Les mots à Hip Hop Award, je crois, de 2008 ou 2009.
Ouais.
Mais si tu me demandes pourquoi Vincent, la même Vincent arrivait en France immédiatement, fait marabout avec l'autorisation de Booba sur la prod et elle pète tout. Elle est official, comme on dit. Ça se passe de commentaires.
Ouais.
Après, on peut rester au quartier et dire ouais. Ça vous regarde. C'est vegan super fort. Avec ses grands frères, j'oublie le nom de leur groupe, mais super fort. Moi, j'ai vu Vegans venir au John Players Gold Leaf Sunday Rap. Elle avait 11 ans. Elle venait avec la robette.
Oui.
On lui mettait juste une casquette à l'envers. Elle fumait tout le monde.
À 11 ans.
11 ans.
Est-ce qu'elle a fumé Protal?
Je dis, elle fumait tout le monde. Si tu vois une fillette, on part en freestyle. Elle avait une balle au pied. Tu fais comment? On est là. Elle fait partie du paysage. Elle est là. Ouais. Elle compte. Elle avait ses frères à vivre. Et Salir, c'était un groupe de rap. Section Extrême, c'était leur groupe de rap.
Ouais.
Là, je parle des histoires de 96.
Ok. Protal, tu es très aussi, tu es très engagé dans le droit des artistes, dans la lutte pour le droit des artistes à travers le Sinamurka.
Oui. Si ça nous considère, les droits des artistes ne concernent que ceux qui ont conscience que ce qu'ils font, c'est un métier.
Oui.
Vous comprenez? Qu'on en soit en 2024, dans des débats ou sur Internet, parce qu'un gars a eu une gloire de 3-4 ans, il dit vos choses là. Vos histoires de droit là. Ce qu'il ne sait pas en prononçant ces phrases, il croit bien se faire voir. Mais en environnement professionnel, il est zéro comme ça. Parce que un artiste ne vient en fait que de ses droits.
Oui.
Les droits générés, les œuvres exécutées, le fait qu'on joue sa musique génère de l'argent. Un artiste ne vit que de ça. Les spectacles, les shows et tout ça, shows, spectacles, produits dérivés, c'est à peine 17% de ce que génère un artiste. Pour ceux qui ne le savent pas. Quand tu bouscules un peu, tu arrives à peine à 22%. Tout le reste là, c'est les droits, la galère et la souffrance. Ça veut dire que Bob Marley, après sa mort, génère très exactement 200 millions d'euros chaque année.
Et de son vivant?
Je peux pas dire. Ouais. Je te dis mort. Bob Marley génère chaque année 200 millions d'euros de droits qui sont répartis entre ses ayants droit, ses enfants, sa famille. Ça veut dire que même si eux aussi sont devenus de grands artistes,
ouais.
Sachez quand même que Bob Marley, c'est 200 millions d'euros de droits depuis 1981. Quand je vois un artiste qu'on doit flatter pour qu'il aille s'affilier à la société de droits d'auteur de son pays, soi-disant à les miettes qu'il donne à la vie. Mais fais attention, parce que le jour où le problème est réglé, tu réaliseras que tu as perdu beaucoup d'argent et tu passeras à côté de beaucoup d'argent.
Pourquoi c'est important? Parce que c'est syndiqué.
Les syndicats concernent les travailleurs. Notre tutelle, c'est le ministre du Travail.
Ouais.
C'est pas le ministère des Arts et de la Culture. Le ministère des Arts et de la Culture avait tout un certain
position. Ça, je ne le savais pas. Parce que quand on parle de syndicats dans le milieu de la musique,
non, les travailleurs.
Je me disais que c'était affilié au ministère du domaine du syndicat.
Nous sommes des travailleurs.
Oui.
Nous défendons les droits de ceux qui travaillent dans la musique. C'est pour ça que c'est la chose de tout le monde. Et non, comme j'ai entendu, oui, c'est un truc que les vieux ont créé pour essayer de profiter de notre droit parce qu'on ne les voit plus, ils veulent nous commander. C'est très bête, c'est des niveaux de sous-intellectualisme très avancés. C'est même pas puéril. L'ignorance, même, c'est un grand mot. Parce que vaut mieux être ignorant. Mais quand tu essayes de te la péter en disant autant de bêtises, on te regarde jusque, ouais, c'est bon. Mais il faut savoir qu'en matière de droit et d'action, dans la constitution du Cameroun, il y a certaines actions qui ne peuvent être portées que par des syndicats. Pas par des individus et des associations.
Ouais.
Il faut faire attention. Le syndicat n'est pas une association. Le syndicat est une institution. Ce n'est pas pareil. Nous sommes soumis à un régime de déclaration, pas d'autorisation. C'est-à-dire qu'en tant que syndicat, je m'en vais déclarer au ministère de l'administration territoriale que je marche demain pour telle raison et telle raison. Il me dit marche. J'ai déclaré. J'ai signé ma fiche de déclaration au marche. Et rien ne se passe.
D'accord. Et si on veut rejoindre le Sinamurka, comment ça se passe?
Il faut s'inscrire. Moi, j'ai passé la main depuis 2 ans ou 3 ans à Tony Mobutu. Je suis président de l'honneur. Pour rapprocher de lui, c'est lui qui sait comment il gère son bureau.
D'accord.
Il y a une affiliation, il y a des statuts, il y a plein de choses. À l'époque, à mon époque, on faisait des rapports chaque mois. On s'était fixé des objectifs. On a atteint 75% de nos objectifs. Bon travail. Sans trompette éclairant. On fait ce qu'on a à faire.
Crotal, oui. Notre conversation tire à sa fin. J'aimerais savoir 2-3 choses encore. Est-ce que Crotal écoute la nouvelle génération de rappeurs?
Ça dépend. Quand il y a quelque chose de bien,
ouais.
Je ne vais pas accrocher.
Qui, par exemple, a attiré l'oreille de Crotal?
Parfois, je ne retiens pas les noms.
Ouais.
Mais il y a parfois de belles choses sur lesquelles on tombe. Tu écoutes, tu dis, là, il y a quelque chose. Il y a de belles métaphores, il y a un fond. La personne va quelque part, la personne porte quelque chose. Tu écoutes, tu captes. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Tout n'est pas noir. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Beaucoup de bonnes choses.
Ok.
Beaucoup de bonnes choses.
Comme il est de coutume dans Forway, le podcast, je laisse toujours le mot de la fin à l'invité. Je lui laisse le soin de nous dire, de nous prodiguer un conseil.
Non. Voilà. Ah, ben moi, je vais dire quoi. Il faut, quand tu es artiste musicien, artiste chanteur, whatever, tu dois prendre au sérieux ce que tu fais parce que c'est pas un jeu. C'est pas, on vient pas essayer. Par conséquent, tu dois prendre la peine d'apprendre tous les contours possibles inhérents à ton métier. Parce qu'un artiste aujourd'hui, à lui seul, c'est une industrie. Il emploie beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'emplois qui se créent autour de lui. Et il faut être conscient de ça. Ce n'est pas un jeu. C'est pour ça qu'on est. Je suis souvent choqué quand je vois des gens organiser des séminaires, des pointures en plus, hein, des séminaires de formation sur la mise sur pied d'une future industrie de la musique au Cameroun. Mais excusez-moi, vos stars, elles sont où quand ça se passe? Ils sont sur la lune? Ou bien c'est qu'elles estiment qu'il y a une industrie de la musique au Cameroun et qu'elles savent tout? Ou bien c'est ce que leurs équipes pensent? Au moment, il faut atterrisser un peu. Sinon, je vais me dire que l'intérêt général ne vous intéresse pas à part vous-même.
Ouais.
C'est-à-dire, tant que ça marche pour ton béret, ouais, bon, tout est rose. Le jour où ça commence à tomber, là, tu appelles tout le monde au secours, oh, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, que les gens soient conscients de ça. Professionnellement, il y a des petites choses qu'il faut savoir, il faut les concerts et les showcases, c'est bien, mais il y a les scènes institutionnelles. Apprenez à vous faire voir là-bas. Une scène institutionnelle, un festival, on y participe en envoyant un clip. Non. On y participe en envoyant une prestation de soi-même sur scène. Mais pouvons-nous avoir une vidéo de l'artiste, tu envoies le clip, qu'est-ce que le gars va faire? Il veut voir ce que tu sais faire sur scène. Qu'est-ce que tu apportes? Parfois, il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, tu ne l'intéresses même pas. Mais sur ton spectacle, il dit que waouh, ça, il me faut ça sur mon festival cette année. Sauf que vous avez décidé que tout ça là, ce n'est pas important. À partir du moment que lui, Diamao, finance les capsules entre TikTok et machin, ça va. Donc, bref, tout ça pour dire que ce qu'on fait, c'est quelque chose de très, très sérieux. Et si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, vous devez nous démontrer que vous maîtrisez quand même ce que vous avez la prétention de faire chaque jour. Parce que si quelqu'un vous soupèse et se rend compte que mais tout ça, vous blaguez, mais il va te traiter comme le blagueur que tu es. Il va te payer au rabais, il va te mépriser, il va te piétiner. Ce qui arrive aujourd'hui avec les annonceurs, nous, c'est un combat qu'on avait fini.
Et que la nouvelle
les mêmes gars contre lesquels on se battait, parce que c'était les mêmes qui parlaient visibilité, les mêmes, ils ont juste attendu qu'on se mette en retrait pour vous piétiner et on n'interviendra pas. Parce que vous ne respectez rien. Vous ne respectez pas les gens, vous ne respectez pas les parcours, vous ne respectez rien. Donc, du haut de votre brillance, vous aussi créez des solutions. Gagnez-les. Nous, on sait comment faire avec eux. On gère ça sans problème. Gagnez. Allez-y. Il faut y aller. Maintenant, je résume ça parfois à notre... Comment on appelle ça? Notre emblème en gabot, c'est persévérance, espérance, endurance, travail.
D'accord.
Persévérance, espérance, endurance, travail.
Merci, Crotal. Merci d'avoir pris.
C'est moi qui vous remercie d'être venu voir jusqu'où l'an. Nous, on est là.